Bonjour, mesdames et messieurs. René Barbin, je me retrouve avec Raymond Beaugrand-Champagne.
Oui, bonjour.
Et ce matin, nous faisons un autre voyage dans le temps, comme la radio, merveilleuse radio, nous permet de faire. Nous retournons au 3e siècle, au tout début de l'histoire de l'Église, pratiquement.
Oui, parce que dans l'Église latine, aujourd'hui, on célèbre le fondateur, si on peut dire, de l'Église d'Arménie. C'est Grégoire l'Illuminateur, son nom est curieux, l'Illuminateur, mais c'est très beau, ce sont ses premiers convertis qui l'ont baptisé ou appelé comme ça, en évoquant un texte de Saint Jean, au premier chapitre, verset 4, « La lumière qui est le Christ ». Or, il retrouvait dans cet homme qui arrivait, qui était un Arménien, mais qui s'était converti à Césarée de Cappadoce, à Césarée, et alors, il est venu en Arménie. On dit qu'il était peut-être de sang royal, et puis il semble bien, d'après les plus vieilles légendes ou les plus vieux documents, il est réapparu donc en Arménie, dans son pays natal, lors de la restauration du royaume d'Arménie. Quand ça? Mais c'est au 3e siècle, dans les années 265 environ. Et puis, en fait, il a converti le roi, qui s'appelait, d'un curieux nom, Tiridate, et c'est en 261, en fait, que Tiridate a été converti. Et dans ce temps-là, et ça a duré des siècles, hein, même jusqu'à il y a quelques siècles à peine, la religion du roi, la religion du prince, était la religion du peuple. Or, évidemment qu'il a été persécuté au début, mais en peu de temps, ayant converti le roi, la plus grande partie de l'Arménie, les Arméniens de l'époque, se sont fait baptiser. Alors, il a été sacré évêque, puis il a gagné à la fois toute la province du Nord. Là, Arara, c'est là qu'il y a le mont Arara, vous vous souvenez, c'est là que, d'après l'Ancien Testament, l'Arche de Noé se serait échouée sur le mont Arara après le fameux déluge. Alors, il y a longtemps qu'on parle de la région de l'Arménie. Avant de mourir, étrange chose, il a sacré son propre fils, Aristakès, qui lui a succédé comme chef de l'Église d'Arménie.
Oui, le mont Arara, j'ai vu dans les journaux il y a quelques années que des scientifiques américains avaient découvert l'Arche de Noé. Est-ce possible ou non?
C'est assez curieux parce que moi aussi j'ai vu ça, j'ai même vu ça, je me souviens bien dans National Geographic Magazine et dans d'autres revues assez sérieuses quand même. Ça semblait bien être la forme d'un bateau sur le mont Ara, perdu dans les glaces ou dans la terre, un bateau qui se serait comme fossilisé à travers les millénaires. Alors, c'est curieux. Évidemment qu'il y a beaucoup de fondamentalistes américains qui financent des recherches de ce genre afin de prouver que, littéralement, la Bible est toujours vraie.
Mot à mot.
Ah, c'est curieux parce que souvent en Israël, surtout depuis maintenant que les Juifs font des fouilles énormes en Israël pour prouver l'authenticité de leur Bible, de notre Bible aussi, eh bien, ils ont découvert quantité de choses. Hein. C'est fantastique dans les fouilles en Israël, l'existence de villes qui sont mentionnées dans la Bible. On s'imaginait que c'était peut-être simplement de l'imagination, puisque ces villes sont disparues depuis des fois 2000 ans. On les retrace. On retrouve des détails énormes. C'est très, très, très intéressant. Alors, Grégoire l'Illuminateur est donc l'apôtre, si on peut dire, de l'Arménie. Mais où est l'Arménie? L'Arménie, c'est un pays extrêmement important et beaucoup plus important qu'on ne pourrait croire. C'est un pays, d'abord, qui est demeuré chrétien. On peut dire que la religion proprement arménienne, ils ont leur propre rite, leur propre liturgie. Ils l'ont conservé en dépit de toutes les persécutions. Et leur pays a été conquis par les Perses, c'est-à-dire les Iraniens d'aujourd'hui, et les Turcs. Or, les Iraniens et les Turcs sont devenus musulmans dès le 7e siècle. L'envahissement de l'islam a transformé ces pays-là. La Turquie, c'est très important sur le plan de l'histoire chrétienne. C'est là qu'il y a la ville aujourd'hui d'Istanbul, qui était Constantinople autrefois. Et Constantinople, c'est quoi? Mais c'est la Rome, hein, si on peut dire. C'est, c'est le centre du christianisme de ce qu'on appelle l'Orient. C'était une ville fantastique. Il faut lire le luxe dans lequel des gens vivaient à cette époque, la splendeur des églises. Il en reste, d'ailleurs, quand on va à Istanbul, on peut voir des grandes églises chrétiennes comme Sainte-Sophie, qui est devenue une mosquée.
Oui,
c'est une des plus belles choses.
On a gardé les vitraux et...
Ah oui, on a regardé beaucoup de choses, mais on a mis à l'intérieur des textes musulmans, puisque c'est devenu une mosquée à cause de la conquête musulmane. Mais les Arméniens, eux, qui ont leur pays, ont habité aussi Istanbul, se sont déplacés à l'intérieur de la Turquie. Il y avait la petite Arménie, si on peut dire, en Turquie. Et les Arméniens ont toujours été persécutés de façon épouvantable, et particulièrement à la fin du siècle dernier, et surtout, une persécution terrible qui a commencé le 24 avril 1915, il y a donc 80 ans, ça a été célébré il y a quelques jours, nous en reparlerons.
Alors, M. Beaugrand-Champagne, retournons à Saint-Grégoire l'Illuminateur, au troisième siècle, en Arménie.
C'est ça, et c'est le fondateur, comme j'ai dit tout à l'heure, de cette église extraordinaire d'Arménie, qui est une église autonome, une église que l'on appelle souvent orthodoxe, mais ce n'est pas nécessairement une église orthodoxe, puisqu'elle est séparée, elle, du grand ensemble du christianisme, qui était à l'époque constitué de l'église latine, dont le siège était à Rome, et de l'église chrétienne orientale, dont le siège était à Constantinople, en Turquie, devenue aujourd'hui Istanbul. Or, eux, les Arméniens, se sont séparés vers l'an 500-550 pour une raison assez théologique, n'est-ce pas? Ce sont ce qu'on appelle des monophysites. Les monophysites, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des tenants du monophysisme, c'est-à-dire une doctrine qui ne reconnaît qu'une seule nature en Jésus-Christ. Et elle est prophétisée seulement par trois églises. L'église arménienne, justement, l'église jacobite de Syrie et l'église copte d'Égypte. Or, les monophysites, ils sont demeurés monophysites, mais une partie d'entre eux ont accepté la doctrine des grandes églises chrétiennes. Et il y a donc aujourd'hui des Arméniens catholique, c'est-à-dire, à Montréal, on en a, n'est-ce pas, des catholiques comme Marie-Yvonne Kendergi, qui est très connue, ou Jacob Zépian aussi, qui est très connu, et quantité d'autres, qui sont des Arméniens, très attachés à leur origine arménienne. Saviez-vous que Marie-Yvonne Kendergi, cette grande musicologue qui a fait tant d'émissions à Radio-Canada, et qui a fondé la Société de musique contemporaine, et qui est une femme très importante ici au Québec, eh bien, elle est arrachée à ce massacre des Arméniens, ce premier génocide de ce siècle, dans les bras de ses parents qui se sont enfuis devant les Turcs qui les ont massacrés. Mais les Turcs se défendent bien d'avoir massacré les Arméniens, et prétendent que non. Or, nous avons célébré, jusqu'à un certain point, c'est une façon, on a commémoré, dirait-on plutôt, il y a quelques jours à peine, le 24 avril, le 80e anniversaire d'un événement extrêmement important dans la série de massacres dont ont été objets les Arméniens à travers les siècles. C'est celui qui s'est déroulé à Constantinople, c'est-à-dire à Istanbul, dans la capitale de l'Empire ottoman, comme on dit, l'Empire turc. C'est terrible ce qui est arrivé, vous savez. Ça a commencé le 24 avril par le massacre, en une seule journée, des intellectuels arméniens de Constantinople. Il y en avait beaucoup. Les notables, les prêtres, même un membre du Parlement qui était très, très estimé a été massacré. On se demande comment des choses comme ça peuvent arriver, hein. C'est qu'à l'époque, les Arméniens étaient les alliés, on peut dire des alliés, et les Turcs, eux, étaient alliés des Allemands. Et les Turcs craignaient, eux qui avaient sur leur territoire, dans leur ville, leur capitale, des Arméniens, ils craignaient que ces Arméniens ne fassent alliance avec leurs ennemis, les Russes. On les a accusés, d'ailleurs, d'avoir fait alliance, mais c'est absolument impensable. Que l'on, il suffit de réfléchir deux secondes, n'est-ce pas? À Constantinople, il y avait quoi? Environ 65 000 Arméniens? Eh bien, on en a déporté plus de 60 000. Ça veut dire que des bébés, des petits-enfants, des femmes, des hommes âgés ont été accusés de collaboration, ce qui est invraisemblable. Hein. 1,5 million d'Arméniens sont morts. Hein. Ce sont des gens qui avaient résisté à la conversion de force à l'islam, qui sont toujours demeurés attachés à leur foi, à leur église. Et il y en a 20 000 à Montréal. Hein. C'est considérable, les Arméniens à Montréal. Il y en a plus de 20 000, d'ailleurs. Et chose absolument remarquable, ici à Montréal, les Arméniens occupent des postes souvent très importants. Ce sont des médecins, ce sont des pharmaciens, des administrateurs, des gens fort instruits. C'est un peuple, d'ailleurs, qui a un génie propre. C'est un peu comme, on pourrait dire, ce qu'on dit en Asie des Chinois, ce qu'on dit aussi ici dans des Juifs, n'est-ce pas, à travers l'Occident. C'est un peuple qui a beaucoup de talent. Pour revenir sur les Juifs, vous savez qu'une très grande partie des meilleurs violonistes sur cette terre, ce sont des Juifs, c'est assez curieux. Or, les Arméniens ont aussi des talents extraordinaires. Ils sont remarquables. Je me souviens d'avoir assisté à une grande soirée avec Marivonne Kenderji où il y avait près de 1,000 Arméniens. Mais c'était extraordinaire de rencontrer tous ces gens cultivés, instruits, raffinés, vivants, vibrants et très agréables. L'an dernier, j'ai eu le plaisir d'aller à une messe pontificale, c'est-à-dire célébrée par un évêque, dans l'église arménienne, séparée de Rome, qui est sur la rue Bernard à Outremont. C'est une ancienne église protestante qui est fort belle, qui a été achetée par les Arméniens. Et il y a là l'archevêque Ovnan Derderian, qui est responsable de tous les Arméniens du Canada. Dommage qu'il ne parle que l'anglais, c'est bien dommage. Mais il est tout jeune, hein, il avait 36 ans, il doit avoir 37 ans maintenant. Et cet homme est très accueillant, très sympathique et... Quand je suis allé à cette messe qui est très longue, j'ai assisté vraiment à ce que l'on célèbre depuis des siècles et des siècles chez les Arméniens. Et on a la même liturgie chez les Arméniens catholiques. Je signale en passant qu'il y a à peu près, il y a quelques dizaines d'années, il y avait un cardinal arménien qui s'appelait Agadjianian V. C'est dire que dans l'Église catholique, les Arméniens ont énormément d'importance, souvent. Et ils ont souffert donc une déportation épouvantable, chassés de Turquie, chassés d'Arménie. Ils sont morts souvent dans le désert du Moyen-Orient. Ils ont été massacrés, ils ont été violés, ils ont été tués à bout portant. Et il y a des films là-dessus qui passent à l'écran parfois. J'en ai enregistré quelques-uns, c'est terrible de voir ça, mais vraiment terrible. L'an dernier, j'ai eu le plaisir d'aller à une messe pontificale, c'est-à-dire célébrée par un évêque, dans l'église arménienne, séparée de Rome, qui est sur la rue Bernard à Outremont. C'est une ancienne église protestante qui est fort belle, qui a été achetée par les Arméniens. Et il y a là l'archevêque Ovnan Derderian, qui est responsable de tous les Arméniens du Canada. Dommage qu'il ne parle que l'anglais, c'est bien dommage. Mais il est tout jeune, hein, il avait 36 ans, il doit avoir 37 ans maintenant. Et cet homme est très accueillant, très sympathique. Et quand je suis allé à cette messe qui est très longue, j'ai assisté vraiment à ce que l'on célèbre depuis des siècles et des siècles chez les Arméniens. Et on a la même liturgie chez les Arméniens catholiques. Je signale en passant qu'il y a à peu près, il y a quelques dizaines d'années, il y avait un cardinal arménien qui s'appelait Agadjianian V. C'est dire que dans l'Église catholique, les Arméniens ont énormément d'importance, souvent. Et ils ont souffert donc une déportation épouvantable, chassés de Turquie, chassés d'Arménie. Ils sont morts souvent dans le désert du Moyen-Orient. Ils ont été massacrés, ils ont été violés, ils ont été tués à bout portant. Et il y a des films là-dessus qui passent à l'écran parfois. J'en ai enregistré quelques-uns et c'est terrible de voir ça, mais vraiment terrible. Et si les Turcs se défendent bien d'avoir été responsables vraiment de ce massacre, il reste qu'il y a des documents étonnants et accablants. Il y a particulièrement un document de l'ambassadeur à l'époque, au temps de la guerre, la première guerre, l'ambassadeur américain Henry Morgenthau, qui a écrit « Je suis absolument confiant que toute l'histoire du genre humain ne renferme aucun épisode aussi horrible que celui qui se déroule actuellement. » Il écrit au moment, évidemment, des grands massacres. Il dit « Les grands massacres, les persécutions du passé semblent insignifiants quand on les compare aux souffrances que les Arméniens souffrent en cette année 1915. » Or, ils ont souffert aussi en 1918. Et en 1922, Kemal Atatürk, qui était le réformateur, n'est-ce pas, de la Turquie, auquel les Turcs doivent beaucoup, et qui était un homme sous certains points fort admirable, comme d'ailleurs les Turcs sont souvent fort admirables, eh bien Kemal Atatürk a suscité un massacre terrible. C'est étrange que des gens qui ont des idées souvent nobles puissent faire de telles choses. C'est un peu comme Hitler, les Allemands étaient fiers sous certains rapports de certaines choses qu'il avait faites, et pourtant Hitler disait lui-même en 1939, juste avant le terrible holocauste des Juifs, il disait « Qui parle aujourd'hui de l'annihilation des Arméniens ?» C'est en 1939 qu'il disait ça. Donc, même pas 20 ans après le dernier massacre des Arméniens. Or, ce que réclament aujourd'hui les Arméniens, qui sont, je vous le rappelle, des chrétiens, c'est pas la vengeance. Ils ne veulent pas se venger. Sauf peut-être de très rares exceptions qui utilisent la violence, mais c'est très rare. Elle est rejetée par le grand ensemble des Arméniens. Ce qu'ils demandent, c'est que l'on reconnaisse en haut lieu, comme on l'a fait en Russie, qu'il y a eu un massacre organisé, et les Russes l'ont reconnu dernièrement. Ils veulent, au fond, que, comme les Allemands ont reconnu eux-mêmes, et puis ils ont demandé pardon aux Juifs pour l'Holocauste nazi, eh bien, ils voudraient que les Turcs d'aujourd'hui reconnaissent les événements de 1915, 1918 et 1922 comme un génocide planifié, parce qu'ils disent que la souffrance qu'ils endurent au fond de leur âme est si grande qu'elle ne pourrait être guérie que par une simple reconnaissance et une capacité alors de pardonner aux Turcs. Un jour, nous interviewions Marivonne Kenderji, cette Arménienne, à Rencontre à Radio-Canada. Et à la fin de l'entrevue où elle avait parlé avec beaucoup d'estime de certains de ses amis turcs, elle qui avait failli mourir, et dont une grande partie de la famille, il faut dire en passant, que tous les Arméniens que l'on connaît à Montréal comme ailleurs dans le monde et qui se sont enfuis, ont des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes ou des cousins, des cousines qui sont morts dans ce massacre abominable. Eh bien, Marivonne Kenderji, à la fin d'une émission, disait « Nous pardonnons parce que nous sommes chrétiens. » Et on lui disait « D'où vous vient cette capacité de pardonner ?» Mais c'est très rare. Elle est rejetée par le grand ensemble des Arméniens. Ce qu'ils demandent, c'est que l'on reconnaisse en haut lieu, comme on l'a fait en Russie, qu'il y a eu un massacre organisé, et les Russes l'ont reconnu dernièrement. Ils veulent, au fond, que, comme les Allemands ont reconnu eux-mêmes, et puis ils ont demandé pardon aux Juifs pour l'Holocauste nazi, eh bien, ils voudraient que les Turcs d'aujourd'hui reconnaissent les événements de 1915, 1918 et 1922 comme un génocide planifié. Parce qu'ils disent que la souffrance qu'ils endurent au fond de leur âme est si grande qu'elle ne pourrait être guérie que par une simple reconnaissance et une capacité alors de pardonner aux Turcs. Un jour, nous interviewions Marie-Yvonne Kendergi, cette Arménienne, à Rencontre à Radio-Canada. Et à la fin de l'entrevue où elle avait parlé avec beaucoup d'estime de certains de ses amis turcs, elle qui avait failli mourir, et dont une grande partie de la famille, il faut dire en passant, que tous les Arméniens que l'on connaît à Montréal comme ailleurs dans le monde et qui se sont enfuis, ont des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes ou des cousins, des cousines qui sont morts dans ce massacre abominable. Eh bien, Marie-Yvonne Kendergi, à la fin d'une émission, disait « Nous pardonnons parce que nous sommes chrétiens. » Et on lui disait « D'où vous vient cette capacité de pardonner ?»« Oh, ça me gêne un peu, mais puisque vous me le demandez, c'est que nous recevons l'Eucharistie chaque dimanche et quant à moi, je la reçois tous les jours. » Et aujourd'hui, dans l'Église du Québec, on célèbre la bienheureuse Marie-Léonie Paradis. Or, Marie-Léonie Paradis, bien qu'elle ait été béatifiée à Montréal il y a 11 ans, par le pape Jean-Paul II lui-même, quand il est venu à Montréal, c'est assez exceptionnel, on a une Québécoise, béatifiée à Montréal, et mal connue, mais si peu connue, que quand j'en parle de Marie-Léonie Paradis, tout le monde me dit « Mais qui est-ce ?» C'est que c'est une femme absolument extraordinaire. Il faut lire dans un petit ouvrage sans prétention écrit par Mgr Chimichella, Marie-Léonie Paradis, ses multiples et mystérieux chemins. C'est une femme étonnante. Étonnante par certains aspects de sa vie. C'est une femme qui a du courage. C'est une femme qui a de la passion pour l'Eucharistie. C'est une femme qui a du dévouement pour les prêtres et pour tous les prêtres. C'est une femme humble, mais qui a de la fierté et qui se gêne pas pour dire parfois qu'elle s'ennuie terriblement là où elle est. C'est une femme aussi qui, ça peut plaire aux gens d'aujourd'hui, est bouleversée par l'amour des gens, mais aussi par l'amour des animaux. Elle est très avant-gardiste sur ce plan-là. Ils avaient, ces sœurs-là, une jument qui était vaillante. La pauvre jument est toute contente, et un jour, où il faisait très, très chaud, Mère Léonie la voit arriver écumante d'une course en ville. Alors elle appelle la sœur Buandia, puis elle lui dit « Allez donc me chercher un drap ». Alors comme elle ne sait pas, la sœur, pourquoi la mère supérieure veut un drap, elle lui apporte ce qu'il y a de mieux. Elle s'étonne de voir le supérieur qui éponge la pauvre bête, la jument, sans plus de cérémonie. Elle lui dit, « Mais ma mère, qu'avez-vous fait? Si vous m'aviez dit que c'était pour éponger la sueur du cheval, eh bien, je vous aurais donné un autre linge. » Et elle dit, « Ma petite sœur, ne dites rien. Et notre cheval aime le propre, lui aussi. Mettez ce drap au lavage et il reviendra aussi beau qu'auparavant. » Je trouve ça très sympathique. C'est naïf, mais c'est bien sympathique. Or, qui était-elle, Marie-Léonie Paradis? Elle est née en 1840, dans le village de l'Acadie, et puis ici au Québec. Elle a été baptisée, drôle de nom, Alodie Virginie Paradis, et ses parents l'ont toujours appelée Élodie plutôt que Alodie, bon, c'est peu important. Et sa mère était une Grégoire, ça peut intéresser certains auditeurs. Donc, elle est entrée chez les sœurs de Sainte-Croix très jeune, mais très très jeune. On est époustouflé quand on voit ça. Hein. C'est sous l'influence du frère Lefebvre, qui est devenu le père Lefebvre, un père de Sainte-Croix, qui est venu parler chez elle en visitant sa vieille mère en janvier 1854, dont elle avait à peu près 12 ans. Et puis l'année suivante, eh bien, même quelques mois plus tard, elle décide de rentrer chez les sœurs. Et puis, ça me gêne de le dire, mais en tous les cas, elle avait 13 ans et 8 mois. C'est surprenant. Alors donc, elle n'avait que 14 ans et 8 mois un an plus tard, quand elle a revêtu le voile blanc des novices. Alors vraiment, c'est très très jeune. Et puis 2 ans et demi plus tard, bien, elle a prononcé ses premiers vœux déjà. Et puis, on l'envoie finalement, où? Mais c'est très intéressant, on l'envoie en Indiana. Pourquoi en Indiana? C'est qu'elle a la fondation. 8 mois. C'est surprenant. Alors donc, elle n'avait que 14 ans et 8 mois un an plus tard quand elle a revêtu le voile blanc des novices. Alors vraiment, c'est très très jeune. Et puis 2 ans et demi plus tard, bien, elle a prononcé ses premiers vœux déjà. Et puis, on l'envoie finalement où? Mais c'est très intéressant, on l'envoie en Indiana. Pourquoi en Indiana? C'est qu'elle a la fondation de la fameuse Université Notre-Dame, l'Université Notre-Dame des États-Unis, là, dont on parle tout le temps à cause de son équipe de football, qui c'est une université catholique immense aux États-Unis. Le recteur, j'ai déjà vu le recteur à la télévision, c'est un père de Sainte-Croix absolument phénoménal. Eh bien, c'est là qu'elle s'occupe de l'éducation en tant que sœur de Sainte-Croix, l'éducation de la jeunesse féminine dans ce temps-là. Puis, elle est maîtresse de français et de travaux d'aiguille, comme on faisait à l'époque. Ça nous situe dans le temps. Hein. C'est une femme qui est là une femme de son temps, mais elle s'y ennuie. À la longue, elle s'y ennuie. Elle se trouve bien loin de son pays, et ça n'est pas facile. Mais il y a plusieurs autres Québécoises qui sont là, des Canadiennes françaises, et aussi des Acadiennes. Mais elle les transportée finalement à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, et elle s'y ennuie encore plus. Or, elle dit à un moment donné, je vous l'avoue, parfois je m'ennuie à mourir. Et c'est l'ennui qui sera la première grande épreuve de Sœur Léonie dans sa nouvelle patrie d'adoption, qu'elle finit par aimer. Elle finit par aimer le Nouveau-Brunswick et elle s'y attache. Elle rallie autour d'elle beaucoup de jeunes Acadiennes qui deviennent femmes très, très dévouées, mais extrêmement dévouées auprès des prêtres. Parce que elle garde un contact très, très étroit avec ce fameux père Lefèvre, là, qui l'avait entraîné à rentrer chez Sœur de Sainte-Croix. Et quand il meurt, lui, le 27 janvier 1895, beaucoup plus tard, donc, il meurt subitement. Il meurt en peu de minutes, comme elle mourra elle-même presque subitement. Eh bien, elle se trouve vraiment dépourvue parce que elle se rend compte qu'elle a perdu l'homme qui l'inspirait le plus. Et elle se rendra compte que du haut du ciel, cet homme va veiller sur lui. Comme elle dit, notre père Lefèvre est plus puissant dans l'autre vie qu'il ne l'était ici-bas.
Marie-Léonie Paradis, c'est bien la fondatrice de la congrégation des petites sœurs de la Sainte Famille.
Et tout à fait, bien qu'elle était une sœur de Sainte-Croix. Ça arrive souvent d'ailleurs que des sœurs d'une communauté fondent une autre communauté, comme des religieux d'une certaine communauté vont fonder une nouvelle communauté. Prenons des pères des 16 apôtres ont été fondés par un franciscain qui est demeuré franciscain jusqu'à la fin de ses jours. Et aujourd'hui, la communauté Saint-Jean en France, qui est très très réputée, est fondée par un dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, qui est toujours dominicain. Or, elle était donc sœur de Sainte-Croix, professeure, etc., mais elle rêvait d'être simple sœur de type, comme on dit, converse, une femme servante. Elle voulait servir les prêtres. Elle avait un attachement à l'Eucharistie tellement fort qu'elle reconnaissait chez les prêtres, qui sont les ministres de l'Eucharistie, une grâce et une grandeur qu'elle leur accordait tous, même ceux qui lui semblaient un peu étranges, elle les respectait du fond du cœur. C'est peut-être une leçon à prendre, comme c'est pas toujours facile de nos jours. Or, c'est justement non seulement un prêtre qui l'a aidé toute sa vie, ce fameux père Lefèvre dont on a parlé tout à l'heure, un père de Sainte-Croix, mais c'est un évêque, un tout jeune évêque, l'évêque de Sherbrooke, Paul Larocque, à la fin du siècle dernier, qui l'encourage à fonder ses petites sœurs. Et elle a déjà plusieurs sœurs autour d'elle qui portent un nouveau costume. Et puis finalement, elle obtient l'autorisation de revêtir elle-même ce costume. Et c'est pour elle un moment difficile. Hein?
Marie-Léonie Paradis, c'est bien la fondatrice de la congrégation des petites sœurs de la Sainte Famille.
Et tout à fait, bien qu'elle était une sœur de Sainte-Croix. Ça arrive souvent d'ailleurs que des sœurs d'une communauté fondent une autre communauté, comme des religieux d'une certaine communauté vont fonder une nouvelle communauté. Prenons des pères des 16 apôtres ont été fondés par un franciscain qui est demeuré franciscain jusqu'à la fin de ses jours. Et aujourd'hui, la communauté Saint-Jean en France, qui est très très réputée, est fondée par un dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, qui est toujours dominicain. Or, elle était donc sœur de Sainte-Croix, professeure, etc., mais elle rêvait d'être simple sœur de type, comme on dit, converse. Une femme servante. Elle voulait servir les prêtres. Elle avait un attachement à l'Eucharistie tellement fort qu'elle reconnaissait chez les prêtres, qui sont les ministres de l'Eucharistie, une grâce et une grandeur qu'elle leur accordait tous, même ceux qui lui semblaient un peu étranges. Elle les respectait du fond du cœur. C'est peut-être une leçon à prendre, quand c'est pas toujours facile de nos jours. Or, c'est justement non seulement un prêtre qui l'a aidé toute sa vie, ce fameux père Lefebvre dont on a parlé tout à l'heure, un père de Sainte-Croix, mais c'est un évêque, un tout jeune évêque, l'évêque de Sherbrooke, Paul Larocque, à la fin du siècle dernier, qui l'encourage à fonder ses petites sœurs. Et elle a déjà plusieurs sœurs autour d'elle qui portent un nouveau costume. Et puis finalement, elle obtient l'autorisation de revêtir elle-même ce costume. Et c'est pour elle un moment difficile. En janvier 96, au matin du 24 janvier, l'avant-veille de la fête de la Sainte-Famille, elle pleure de contentement en lisant un télégramme suivant qu'elle reçoit de Sherbrooke, c'est l'évêque qui lui écrit, « Révérende Mère Léonie, un mandement de l'érection canonique de votre communauté. » Et c'est signé, date, fête, Sainte-Famille, rendez grâce à Dieu. Or, la recommandation finale, rendez grâce à Dieu, c'était facile d'accomplissement parce que ça faisait 20 ans que Sœur Léonie, qui devient Mère Léonie à cause de... mais elle devient fondatrice, vivait pour cette heure de l'entre-officiel dans l'église de sa petite communauté de petites sœurs. Elle les voulait des petites sœurs. Vous vous souvenez, communauté fonde une autre communauté, comme des religieux d'une certaine communauté vont fonder une nouvelle communauté. Prenons les Pères des Saints Apôtres ont été fondés par un franciscain qui est demeuré franciscain jusqu'à la fin de ses jours. Et aujourd'hui, la communauté Saint-Jean en France, qui est très, très réputée, fondé par un dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, qui est toujours dominicain. Or, elle était donc sœur de Sainte-Croix, professeure, etc., mais elle rêvait d'être simple sœur de type, comme on dit, converse, une femme servante. Elle voulait servir les prêtres. Elle avait un attachement à l'Eucharistie tellement fort qu'elle reconnaissait chez les prêtres, qui sont les ministres de l'Eucharistie, une grâce et une grandeur qu'elle leur accordait tous, même ceux qui lui semblaient un peu étranges, elle les respectait du fond du cœur. C'est peut-être une leçon à prendre, quand c'est pas toujours facile de nos jours. Or, c'est justement non seulement un prêtre qui l'a aidé toute sa vie, ce fameux père Lefebvre dont on a parlé tout à l'heure, un père de Sainte-Croix, mais c'est un évêque, un tout jeune évêque, l'évêque de Sherbrooke, Paul Larocque, à la fin du siècle dernier, qui l'encourage à fonder ses petites sœurs. Et elle a déjà plusieurs sœurs autour d'elle qui portent un nouveau costume. Et puis finalement, elle obtient l'autorisation de revêtir elle-même ce costume. Et c'est pour elle un moment difficile. En janvier 96, au matin du 24 janvier, l'avant-veille de la fête de la Sainte-Famille, elle pleure de contentement en lisant un télégramme suivant qu'elle reçoit de Sherbrooke, c'est l'évêque qui lui écrit, « Révérende Mère Léonie, un mandement de l'érection canonique de votre communauté. » Et c'est signé, date, fête, Sainte-Famille, rendez grâce à Dieu. Or, la recommandation finale, rendez grâce à Dieu, c'était facile d'accomplissement parce que ça faisait 20 ans que Sœur Léonie, qui devient Mère Léonie à cause de... mais elle devient fondatrice, vivait pour cette heure de l'entre-officiel dans l'église de sa petite communauté de petites sœurs. Elle les voulait des petites sœurs. Vous vous souvenez peut-être de ce film admirable qui a été fait par l'Office national du film sur cette communauté, je crois, qui avait permis de voir que les petites servantes comme ça, ces Québécoises que l'on connaît pas, qui habitent au fond des presbytères, des archevêchés, surtout des institutions d'enseignement, qui travaillent souvent dans les sous-sols des maisons d'enseignement à faire la cuisine, sont souvent des femmes extraordinaires. Je les ai assez bien connues. Moi, j'ai connu les petites filles de Saint-Joseph, qui travaille au Grand Séminaire de Montréal. Et je les ai bien connus parce que j'ai travaillé comme laïc dans ce Grand Séminaire pendant 5 ans. Et comme je devais manger à part, c'était la coutume à l'époque dans les années 50, comme laïc, je mangeais dans ma chambre. Et j'allais chercher 3 fois par jour un plateau de nourriture et je pouvais parler avec ses sœurs. Mais il y avait là des femmes extraordinaires et je les ai retrouvées un jour dans leur maison mère. Mais le regard de ces femmes-là, la profondeur de leur regard, de leur sourire, la tendresse, c'est extraordinaire de voir combien un certain effacement grandit les gens. Et je pense que souvent nous sommes trop orgueilleux, trop prétentieux, trop fiers de certains dons qu'on a reçus pour pouvoir comprendre la grandeur de ces petites sœurs, les petites sœurs de la Sainte Famille que Marie-Léonie a fondée. Or, elles se sont rendues compte que c'était à Sherbrooke qu'elles avaient vraiment leur terre promise. Et elles grandissent, et elles deviennent finalement ce qu'elles sont. Et elle doit retirer son vêtement de sœur de Sainte-Croix. Et ça me tente de lire ce que rapporte une petite sœur qui a vu, parce qu'elle partageait la chambre de la sœur Léonie, parce que c'était très pauvre, très très pauvre. Elle dit « Je fus témoin du sacrifice héroïque de cette chère fondatrice. Le sacrifice qu'elle fit en cette circonstance, l'émotion me gagna malgré moi et je pleurai à chaudes larmes. Ce samedi soir, 1er octobre 1904, en enlevant chaque objet qu'elle portait depuis 50 ans, c'est-à-dire son costume de sœur de Sainte-Croix, et qu'elle ne devait jamais plus remettre, ce fut un colloque intime avec chacun. » Et la petite sœur raconte, « On eût dit qu'ils avaient une âme, ces objets-là, tant elle leur parlait avec conviction. » Et elle rapporte les paroles de Mère Léonie. « Ô cher cœur, portez un cœur, les sœurs de Sainte-Croix, ô cher cœur à l'effigie de ma bonne mère du ciel, chère cordelière qui me rappelait tant sa couleur préférée, cordon bleu, cher chapelet sur les grains duquel mes droits ont si souvent glissé, je vous dépose pour toujours, en vous disant adieu, combien j'aurais désiré vous porter jusqu'à ma mort. Mon Dieu, par la voix de nos seigneurs les évêques, en a décidé autrement et je me soumets. » Et elle baisait longuement chacun de ses objets pendant que de grosses larmes roulaient sur ses yeux. En somme, Mère Léonie est restée toute sa vie d'une simplicité charmante. C'est Mgr Chimichella qui écrit ça. Qui l'apparentait bien plus, au premier abord, à la candeur des enfants qu'à la prudence compliquée de certaines âmes adultes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la simplicité des enfants n'est pas de l'enfantillage. C'est une suprême sagesse et leur fraîcheur d'âme n'est que la résultante d'une fidélité de tous les instants à l'amour dont ils dépendent et de leur abandon total aux volontés supérieures qui les guident. Et de là, c'est ce que je disais tout à l'heure, de là cette limpidité du regard chez ces petites sœurs, cette joyeuse insouciance des petits. Et de là, cette sérénité intérieure qui les transfigure et qui communique à tous ceux qui les approchent. Ils sont de ces doux, selon la parole du Maître, possèdent la terre. En somme, Mère Léonie a fondé une communauté qui nous rappelle que Jésus lui-même s'est fait humble, s'est fait simple. Quand on pense que Dieu se fait homme, nous qui sommes de pauvres êtres, c'est phénoménal. Et elle dit à ses sœurs, « Travaillons, mes chères filles, tandis que nous sommes sur la terre. C'est ce que le bon Dieu demande de nous. Nous n'aurons pas de plus belle prière à lui offrir que notre dévouement. Nous nous reposerons au ciel. » Elle est morte très doucement, comme une sainte.